bénissons le Seigneur une fois de plus pour l'opportunité qu'il nous accorde, comme cela est bien dit, d'être compté parmi les vivants. Et par sa grâce, nous sommes ici, encore à son école, dans une semaine de connaissance, comme nous l'avons déclaré hier. Nous aimerions à notre foi ajouter la connaissance, et cela pour nous aider à bien communier avec Dieu, et surtout le Saint-Esprit, qui est notre assistant et compagnon de vie tous les jours. Merci pour braver le froid et être là. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons commencé et nous avons voulu cette semaine essayer de comprendre le Saint-Esprit, quand bien même nous n'allons pas le comprendre totalement, mais nous aimerions quand même développer une connaissance à son sujet pour que nous puissions bien développer une relation et surtout une communion avec lui pour notre croissance spirituelle. Hier, nous nous sommes attelés pour essayer de parler plus sur sa nature et ses attributs, et nous avons dit que dans sa nature et ses attributs, le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas une puissance. Il est Dieu en totalité, identifié à Dieu, nous l'avons dit, associé au Père et au Fils, nous l'avons dit, possède les attributs divins, éternité, omniscience, omniprésence, omnipotence et la sainteté. Et dans sa personne, nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière, avec intelligence, avec sentiment, avec volonté et intention, et avec une capacité de communiquer et parler aux hommes, et aussi avec une capacité de prier, d'enseigner, de témoigner, ainsi de suite. Et nous avons parlé de ces titres. Et tout ceci, nous le faisons pour nous aider à bien adorer, à bien communier avec lui, parce qu'il est Dieu, et si nous devons bien développer une relation avec lui, il faudrait que nous puissions le connaître avec tous ses titres, nous pouvons l'adresser de cette manière. Il est auteur des Écritures, nous avons dit, il est notre consolateur et conseiller, il est celui qui convainc le monde du péché, il est le dépôt ou le sceau ou le gage de Dieu pour nous, en attendant le jour de la rédemption. Il est notre guide en tout et partout et pour tout. Il est notre compagnon de tous les jours parce qu'il réside en nous, il habite en nous, il nous aide à porter du fruit. Mais aussi, il est notre intercesseur. Quand nous ne savons pas prier, intercéder comme il se doit, il nous aide et nous assiste. Il est le révélateur, il est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, et surtout en Jésus lui-même qui est la vérité et qui a aussi la vérité. Il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit du Seigneur Jésus, il est l'Esprit de Christ, la Bible le dit, il est l'Esprit de vie, et ainsi il nous vivifie tous les jours dans nos faiblesses humaines. Lui, quand il vient à nous, il nous donne encore la vie, il nous enseigne, il est témoin de Christ et il nous aide d'être des bons témoins de Christ. Voilà ce que nous avons dit hier. Rapidement, j'aimerais continuer et vous soumettre les symboles que les Écritures présentent du Saint-Esprit. Il y a certains symboles que les Écritures présentent pour représenter le Saint-Esprit ou bien pour parler du Saint-Esprit. Des fois, nous voyons ces symboles ou nous écoutons ces symboles et on se pose des fois des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, il y a des symboles utilisés pour le Saint-Esprit. Je vais vous soumettre peut-être 3, 4 ou 5 rapidement et nous serons en train de continuer. Le premier grand symbole qui est utilisé pour le Saint-Esprit, c'est le symbole de la colombe. La colombe. La colombe n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est seulement un symbole pour le Saint-Esprit. Parce que beaucoup croient que quand on voit la colombe, on a vu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le cas. Venez avec moi dans Luc chapitre 3, verset 16. Dans Luc chapitre 3, verset 16, la Bible parle de la colombe, de ce symbole. Luc chapitre 3. Je risque de me perdre ici. Je cherche le baptême de Jésus-Christ. Juste après son baptême, le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. C'est 3, 21. Alors, c'est lui qui l'a appelé lire pour nous rapidement.
Tous les peuples se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre les cieux.
Revenez à la partie précédente. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle de. Comme une colombe, c'est cette portion-là que j'étais en train de chercher. Le jour du baptême de Jésus-Christ, dès qu'il sort du Jourdain, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. C'est là pour signifier que le Saint-Esprit s'est matérialisé. Où le Saint-Esprit a choisi de prendre la forme d'une colombe. Et il est descendu sur Jésus. Et une voix a témoigné du ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui je suis où j'ai trop d'affection. Bien-aimé, c'est ma prière. Que quand Dieu nous voit, qu'il dise, voici mon fils, voici ma fille, en qui je suis satisfait. Et comment nous y arriverons? C'est seulement quand nous développons une très bonne relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit. La colombe, donc, le Saint-Esprit matérialisé ce jour-là, comme Jésus lui-même qui est esprit, a décidé de prendre le corps humain pour se matérialiser parmi nous. Le Saint-Esprit est venu sous forme de la colombe. Et à part ça, il y a aussi le deuxième symbole, c'est le symbole de l'huile. Toutes les fois que nous parlons du Saint-Esprit, nous parlerons de l'onction, nous parlerons de l'huile. Et c'est le symbole de la consécration pour le culte ou pour le service du Seigneur. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe chapitre 61, vous suivrez cette grande déclaration que Ésaïe fait, mais c'est la même déclaration que Jésus-Christ fera plus tard dans Luc. Ésaïe chapitre 61, du premier au troisième verset. La Bible nous dit ce qui suit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et la suite nous donne la raison ou les raisons pour lesquelles il est oint. Il est oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il est oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, et trois, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous pensons à son onction. Son onction qui vient sous forme d'huile. Je l'ai dit hier, toutes les fois qu'un roi devrait être oint, on lui versait de l'huile dessus. Un sacrificateur mêmement, on lui oignait avec de l'huile. C'est ça, l'un des symboles du Saint-Esprit. Et Jésus, quand il vient, il déclare la même vérité. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Et bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous vivons dans ce temps-là. Nous vivons dans ce temps-là parce que nous ne pouvons plus être les captifs. Que ce soit du péché ou des démons, parce que Christ est ici, il est en nous. Et il est avec nous, et il veut nous libérer. Nous libérer de nos maladies qui nous font souffrir. Sur la croix, il a été blessé. Et par ses meurtrissures, nous nous sommes guéris. Il est question que nous puissions vivre cette vérité, réclamer cette vérité. Et le Seigneur le fera sûrement dans notre vie. Il a guéri, il guérira encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exerçons seulement notre foi. Marchons alors dans cette vérité et nous le verrons agir tous les jours. L'huile. Le troisième symbole, c'est le souffle ou le vent. Le souffle ou le vent. De l'hébreu roua ou du grec pneuma. C'est cette immatérialité du Saint-Esprit. Quand bien même il s'est matérialisé sous forme de la colombe, mais il est immatériel. Et Jésus, pendant qu'il était en train de s'entretenir avec Nicodème dans Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 3, Jésus parle à Nicodème. Il lui apporte l'évangile du salut et de la nouvelle naissance que Nicodème semble ne pas comprendre, bien qu'il soit un grand docteur de la loi. Ceci signifie simplement que les choses spirituelles doivent être discernées spirituellement. Des fois, nous pouvons bien vouloir utiliser notre raison et nos connaissances, mais aussi longtemps que nous ne nous soumettons pas à l'obéissance de l'Esprit, il y a des choses que nous n'allons jamais discerner. C'est là où les intellectuels sont piégés. Nous voulons tout laisser à la raison, pendant que la raison est tellement limitée. Si nous pourrions seulement nous laisser guider par l'Esprit, nous verrions les choses très différemment. Jésus répondit, je suis au troisième verset de Jean chapitre 3. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Plus loin, au huitième verset, il dit Jésus, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Le vent souffle. D'une manière physique, nous le sentons. Nous le voyons bouger les arbres, mais nous ne savons pas d'où il vient. Et nous ne savons même pas la direction qu'il prend. Jésus dit, c'est de la même manière que le Saint-Esprit opère. Il opère de cette manière. Mais le vent ici, quand il souffle, nous l'entendons, fait presque référence au vent de vie, le souffle même de vie que Dieu a soufflé à Adam. Plus loin, Genèse chapitre 2, Dieu vient de créer Adam, une masse inerte, mais il vient vers Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle le souffle de vie, et Adam devient un être vivant. Alléluia. C'est de la même manière que nous qui étions morts par nos péchés, quand le Saint-Esprit entre en nous, il lui donne une nouvelle vie en Christ. Alléluia. C'est le souffle même de vie. C'est ce vent-là qui, quand il souffle, nous ne savons pas d'où il vient et où il va. C'est ce qui se passe le jour du salut. Le message est prêché. Tout le monde a écouté, mais une ou deux ou trois personnes acceptent le message et ils sont nés de nouveau. Des fois, c'est la femme qui est née de nouveau pendant que le mari n'est pas encore. Ou soit que c'est le mari pendant que la femme n'est pas encore. Ou soit que ce sont les enfants ou l'un des enfants qui commence. Le vent souffle. Et même aujourd'hui, il souffle. L'esprit est en mouvement. Il est en action. Et il veut nous transformer. Il veut changer nos vies. Il veut nous donner une nouvelle naissance, un nouveau départ. Troisième symbole ou quatrième, c'est l'eau. Quand nous parlons du Saint-Esprit, il est symbolisé par l'eau. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38 et 39. Dans Jean 7, Jésus fait une très grande déclaration. Et la voici. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront de son sein. Qu'est-ce que cela signifie? C'est seulement la richesse de Dieu qui coule ou découle de nous une fois que nous avons reçu Christ. Et j'associe ça au fruit de l'Esprit. Il n'y a que notre paix qui va apaiser les autres. Il n'y a que notre joie qui va contaminer les autres. Il n'y a que notre patience qui va interpeller les autres. Il n'y a que notre maîtrise de soi qui va défier les autres. Alléluia. Le seau, le torrent de vie qui coule de nous. S'il y a une chose, bien aimée, qui peut faire de sorte que notre environnement s'étonne et se pose question, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Sans voir le fruit de l'Esprit en action dans notre vie abondamment, et les gens diront que non, là il y a une transformation. C'est toi même pas les dons de l'Esprit. On en parlera cette semaine. Ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les guérisons, mais notre propre vie transformée. Et c'est ça, l'eau qui coule et qui jaillit de nous. Ce qui fait la grande différence entre nous et les autres, le fruit de l'Esprit. Et il dit, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Seulement pour vous faire référence que ici Jésus a un pied dans l'ancienne alliance et un autre pied prêt à inaugurer la nouvelle alliance. Je l'ai dit hier, je le répète, dans l'Ancien Testament ou dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit est sélectif et temporaire. Il vient sur un groupe de gens, soit le prophète, soit le prêtre ou le sacrificateur, ou soit le roi, ou quelques personnes que Dieu veut d'une manière ou d'une autre oindre pour une cause quelconque. Les juges, vous trouverez même un ingénieur en construction qui est oint pour construire. C'est temporairement que l'Esprit vient et sélectivement. Mais dans la nouvelle alliance, vous allez découvrir avec moi comme je continue. Cette fois-là, l'Esprit vient pour tout le monde. Et Jésus-Christ, quand il inaugure le moment, le jour de la Pentecôte, vous verrez que c'est les 120 qui étaient là, mais aussi la promesse était pour presque tout le monde. L'eau de vie jaillit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces simples Galiléens ici, comment ils peuvent être en train d'impacter le monde, ces simples Galiléens? Ne sont-ils pas des Galiléens? Mais quelque chose s'était passé. L'Esprit de Dieu était en eux et sur eux. C'est ma prière pour toi, simple que tu sois, que l'Esprit marque la différence dans ta vie. Que le Saint-Esprit marque la différence dans ta profession. Que le Saint-Esprit marque la différence dans ta carrière. Parce qu'une fois qu'il est en nous, il y a une différence qui est remarquable. L'autre symbole, c'est le feu. Le feu, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, et la suite, Jean-Baptiste est en train de prêcher et il dit, écoutez, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera de feu. Le feu simplement pour témoigner l'action purificatrice du Saint-Esprit. Il consume de cette manière toute impureté dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces symboles sont importants. Que ce soit la colombe, l'huile, le souffle ou le vent, ou l'eau, ou le feu, simplement pour signifier que l'œuvre de Dieu est multidimensionnelle. Dieu agit de plusieurs manières, et tout cela pour notre bien, pour sa gloire, mais aussi pour nous rapprocher de nous. Voyons rapidement ce matin la promesse du Saint-Esprit à tous les disciples de toutes les générations. Le Saint-Esprit de qui nous parlons a été promis des années avant même la naissance de Jésus-Christ. Mais il était promis pour les disciples ou les croyants de toutes les générations. Là, je vais demander à ce que nous puissions considérer rapidement Joël, le prophète. Joël, le prophète, dans son livre Joël, nous allons lire juste quelques versets et nous allons les considérer rapidement. Joël, le livre de Joël dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît, nous lisons du 28e au 32e verset du deuxième chapitre. Joël, chapitre 2, verset 28 au verset 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera pour sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Un grand message. Mais un message d'espérance qui tombe après un grand message de jugement. Quand vous lisez ce chapitre à partir même du premier chapitre, mais le deuxième chapitre lui-même, vous trouverez que l'Éternel commence par annoncer son jugement à son peuple. Comment il va le juger. Mais aussi, il va témoigner de sa grâce à ce peuple-là. Il va témoigner sa grâce, il va promettre son salut, mais après, il va promettre le Saint-Esprit. Mais aussi, il va promettre la fin des temps. Quatre choses à la fois. Le jugement pour le monde qui ne veut pas croire, qui ne veut pas marcher selon sa volonté, le jugement sur Israël. Mais encore, il leur dit, je ferai grâce. Je ferai grâce. Mais pas seulement ça. Il donne la promesse du Saint-Esprit. Mais il finit par dire que mon grand jour, la fin des temps et de toutes choses, va arriver. Ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas obéi, le grand jour sera un jour terrible. Ce sera un jour de ténèbres, de feu et tout ça. Et tout le monde se trouvera devant ma colère et non pas sera être devant ma grâce comme les gens sont habitués. Alors, la promesse du Saint-Esprit pour toutes les générations à suivre a été déclarée. Et la Bible nous dit clairement comment les choses se feraient. C'est que premièrement, l'effusion du Saint-Esprit se ferait après la repentance et la restauration du peuple. Nous ne pouvons recevoir que le Saint-Esprit après que nous nous ayons repentis et que nous soyons restaurés par Dieu. Quand vous lisez ce deuxième chapitre, du 1er au 11e verset, Dieu annonce son jugement sur Israël. Mais dans sa grâce encore, du 12e au 17e verset, il parle de la repentance. Il appelle le peuple à se repentir. Mais dans sa miséricorde aussi et sa bonté, Dieu montre à Israël du 18e au 27e verset comment il les aime, comment il veut les restaurer. Mais au 28e et 29e verset, il leur donne la promesse d'une grande espérance, la promesse du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit, il fallait qu'Israël se repente. Curieusement, c'est le même message que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, va encore faire retentir dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, le verset 38. Dans Actes des Apôtres 2:38, en pleine prédication, quand Pierre est arrêté, poser cette grande question, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous, soyez, quelqu'un peut lire ça pour nous, soyez baptisés au nom de Jésus, afin que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la promesse est là. La promesse est donnée à tous, oui. Mais la première condition, c'est la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est tourner, oublier, dire au revoir à son ancienne vie, ses anciennes habitudes, dire au revoir. Vous allez vous rappeler quand vous étiez encore élève. Il y avait ce cours de la gymnastique. Et toutes les fois, on commençait par la marche, n'est-ce pas? 1, 2, gauche, droite. 1, 2, gauche, droite. Et l'enseignant vous dirait, un quart de tour à gauche. Vous vous rappelez de ça? 1, 2, 3. En avant, marche, gauche, droite, gauche. Un quart de tour à droite. Et quand il vous dit demi-tour à droite, qu'est-ce que vous faites? 1, 2, 3. Ça, c'est le quart. Hein? Le demi-tour, c'est donc ça. Vous tournez complètement. Voilà le demi-tour. Et le quart, c'est ça, ça. Alors, quand nous parlons de la repentance, nous faisons un demi-tour. C'est que j'étais en train de marcher vers le mensonge ou dans les mensonges, je tourne complètement, le mensonge ne me verra plus et je ne me verrai plus. Je marchais dans l'escroquerie, je marchais dans la haine, je marchais dans les publicités, je marchais. Alors tu fais un demi-tour, tu dis au revoir, je ne reviens plus. C'est que si je marchais vers le lac, quand je fais demi-tour, je tourne, je ne rencontrerai jamais le lac. Mais c'est quoi la maladie que nous avons à l'église? Au lieu de faire demi-tour, nous faisons un quart de tour. J'étais en train d'aller, tu fais ton quart de tour. Mais ici, le problème, c'est que je marche.
Na huko naona maman, merci beaucoup pour m'aider. Quand c'est le cas, vous allez, vous n'avez pas fixé le regard comme il se doit. Tu vas, mais tu as la facilité et la possibilité de jeter un coup d'œil vers. Parce que c'est le cas. Tu essaies de. C'est là où tu agis comme les enfants d'Israël. C'est vrai, nous allons dans la terre promise, mais les concombres. Mais les concombres. Mais la viande. Ça, c'est le cas de tout. Mais ici, c'était ça ta direction. Dans n'importe quel péché, tu dis, je fais demi-tour. Waouh! Je suis parti. Est-ce que la nuque voit ce qu'il y a derrière? On peut me pointer, on peut. Quelqu'un peut venir même essayer de. Maman, je ne me regarde pas derrière. Je suis focalisé. Si seulement nous, chrétiens, prenions cette décision de dire au revoir au monde une fois pour toutes et pour toujours, les choses changeraient radicalement. Le problème, c'est que nous entretenons encore l'Égypte d'une manière ou d'une autre. Alors, les visions du Saint-Esprit promis, oui, pour toutes les générations, mais la première condition, il faudrait qu'il y ait repentance. Ce n'est qu'après notre repentance sincère que le Saint-Esprit va descendre. Deuxièmement, l'effusion était promise et elle serait grande et universelle. L'effusion du Saint-Esprit serait grande et universelle. Ici, le prophète le dit que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Cela signifie que les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, les libres, les esclaves, tous devraient recevoir le Saint-Esprit. Pour dire quoi? Que les barrières, les restrictions sociales, l'âge, le genre, tout ceci, le statut social, n'aurait plus sa place. Parce que Dieu veut venir tout le monde avec son esprit. La bénédiction qu'il avait promise à Abraham devrait être reçue par nous tous. Le Saint-Esprit. Et pour nous tous, pas pour les pasteurs, pas pour les évangélistes, pas pour les adorateurs, mais pour nous tous, femmes et filles, hommes et vieillards et jeunes, tout le monde. Et j'aime le verbe qui est utilisé. Répandre le Saint-Esprit. Qui est différent de verser le Saint-Esprit? Verser, vous versez à désordre ou bien en ordre. Ok? Vous versez quelque chose en ordre ou soit en désordre. Quand vous prenez de l'eau, donc vous n'en avez plus besoin, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, qu'est-ce que vous faites? C'est parti. Ou si vous voulez changer, verser de l'eau du bidon dans un bassin, vous le faites de cette manière. Mais répandre, c'est un processus. Répandre, c'est un processus à ce sens que tu vas en train de verser progressivement et selon l'ordre et ta pensée et la manière avec laquelle tu veux répandre de l'eau. C'est un peu comme ce que nous pourrions faire si on avait des jardins. Chaque matin, tu te réveilles, tu arroses. Ok? Tu y vas progressivement. Alors, quand le prophète parle de ce que Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair, c'est qu'il le fait progressivement, c'est qu'il le fait même répétitivement, il le fait dans une action, une génération à une autre.
Nos aînés ont expérimenté la Pentecôte. Nous continuons à expérimenter la Pentecôte. Même nos enfants vont expérimenter la Pentecôte. Même nos petits-enfants, si Christ n'est pas encore venu. Parce que je l'ai dit, simplement expliquer la Pentecôte, c'est recevoir Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit à nous. Et ça, c'est progressif, génération
en génération. Et cette période-là, et à cette époque-là, il y avait une très grande différence. Les femmes n'étaient pas aussi considérées comme c'est le cas aujourd'hui. Les esclaves n'avaient pas une place avec le maître comme c'est le cas aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit venu devant Dieu, tous nous sommes égaux. Patron ou pauvre, étudié ou sans étudier, devant lui nous sommes tous égaux. Parce que quand il donne sa grâce et ses bénédictions, il le fait sans beaucoup de distinction. Alors l'effusion était promise, elle serait universelle. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit ici à Goma, quelqu'un d'autre en Rwanda, d'autres au Burundi, d'autres en Amérique, partout dans le monde, quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient et habite en lui, qu'il soit pygmée ou qu'il soit premier ministre, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, qu'il soit riche ou pauvre, tous nous sommes bénéficiaires de la même manière sur toute la planète, la terre, bénéficiaires du Saint-Esprit. Il suffit que nous puissions nous repentir et croire et accepter. Nous avons le Saint-Esprit. Donc, l'effusion serait universelle. Et il est effectivement universel. Et Dieu a répandu ce jour-là et il continue à répandre même aujourd'hui son Saint-Esprit. Troisièmement, l'effusion devrait être spectaculaire pour confirmer l'accomplissement de la promesse. L'effusion était spectaculaire pour confirmer l'accomplissement de la promesse. C'est ça ce que nous voyons dans Actes chapitre 2. Une grande action se fait d'une grande manière. Le Saint-Esprit vient dans les Actes 2. Avec un grand bruit, un grand vent, 120 personnes sont remplies à même moment. Tous adorent à haute voix, toute la ville accourt. Parce que c'était une promesse attendue et c'était une promesse qui devrait être vécue et témoignée par beaucoup. Les gens sont arrivés. Sûrement parmi ces 120-là, il y avait même des servantes. Il y avait des esclaves qui croyaient sûrement. Il y avait des femmes et des hommes. Et les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La promesse, quand elle est accomplie, elle a toujours des témoins. Vous n'avez pas écouté ça. La promesse, quand elle s'accomplit, il y aura toujours des témoins qui te verront pour ton mariage, qui te verront le jour de ta collation de grade, qui te verront entrer dans cette maison que tu as attendue pour longtemps. Il ne faut jamais oublier d'inviter votre bailleur le jour où vous entrez dans votre maison. Parce qu'il vous a tellement torturé, il faudrait qu'il soit témoin de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Alléluia! Quand la promesse de Dieu s'accomplit, les témoins doivent être là et le témoignage doit être grand. Quand les gens vont commencer à dire, oui, tout, il m'a dit, oui, pas quand même, Kwanema. Na oui, j'ai quand même blague. Kwanema. C'est le témoignage, alléluia. Que le Seigneur te donne ce témoignage, que ce que tu attends de lui s'accomplisse au nom de Jésus. Bien-aimé, la promesse, l'effusion était spectaculaire. Quand vous voyez le feu, la Bible dit que les lames de feu étaient sur chacun d'entre eux. Quand vous allez dans la Bible, vous trouverez que le feu du ciel, chaque fois qu'il descendait, il descendait pour témoigner l'acceptance du sacrifice qui devrait être donné. Chaque fois qu'il y avait un sacrifice présenté au Seigneur, le feu descendait. Le feu est descendu le jour de la dédicace du tabernacle. Le feu est descendu aussi le jour de la dédicace du temple pour témoigner que j'accepte. Et aujourd'hui, Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu pour déclarer ce nom et nous faire voir que tout ce monde-là, en Christ, était devenu des sacrifices vivants acceptés par le Seigneur. Alléluia. Ils étaient devenus des sacrifices vivants acceptés par le Seigneur. Pas seulement ça, devenu la résidence même, le temple même du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons comprendre cette dimension. Je répète, la dimension résidentielle du Saint-Esprit, nous devons la comprendre et la vivre. C'est pourquoi nous sommes tous devenus des sacrifices. Ce que l'apôtre Paul va dire dans les livres des Romains. Je vous exhorte, mes frères, de présenter quoi ? Vos corps comme un sacrifice vivant. Nous ne devons pas présenter nos corps pour la prostitution, pour la colère, pour la détresse, pour je ne sais pas, mais les présenter comme un sacrifice vivant qui plaise au Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que ce jour-là, quand le feu est descendu, se présentant sur chacun, c'était le témoignage que ça, ce sont les sacrifices acceptés. Ça, c'est le temple accepté. Que Dieu m'aide et qu'il t'aide à devenir cela. Et quatrième chose, la vision était capacitatrice. Le Saint-Esprit, quand il est arrivé, il venait pour nous capaciter pour l'œuvre du Seigneur. Il a été promis, il a été libéré et il a capacité les serviteurs. Vous allez vous rappeler de Pierre. Pierre le peureux devient Pierre le puissant avec un message poignant. Et tout le monde s'est dit, aïe, c'est Pierre ici le pécheur. Lui qui a renié le Seigneur il n'y a pas longtemps. Voilà qu'il était debout avec un message puissant. Un message qui a poignardé le cœur des gens et qui les a convaincus. Et ils sont venus vers le Seigneur. Et dernièrement, la promesse... À part être, comme je l'ai dit, une promesse vraie qui s'obtient après la repentance, une promesse grande et universelle, une promesse spectaculaire, une promesse capacitatrice, cette promesse du Saint-Esprit reste en vigueur. Même aujourd'hui, elle reste en vigueur, car le prophète dit, cette promesse était pour vous et qui ? Vos fils et vos filles, en d'autres termes, même vos descendants. La promesse du Saint-Esprit est en vigueur jusqu'aujourd'hui. Ce qui signifie que ceux qui naissent, comme je l'ai dit tantôt, vont aussi bénéficier du Saint-Esprit. Tous ceux qui vont croire vont bénéficier du Saint-Esprit. Dans ce que nous avons lu ici dans le livre des Jean, Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit sera là pour ceux qui croiraient. Ok? Pour ceux qui croiraient. En d'autres termes, même ceux qui vont venir après. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'illustre mieux dans le livre de Tite. Tite chapitre 3, c'est par là que nous terminons. Tite chapitre 3, le verset 4e et 5e. Tite vient juste après Timothée. Tite chapitre 3, verset 4 et la suite. Écoutez ce que la Bible dit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Ce processus est en cours. Les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, sont en train d'être régénérés jour après jour et en train de recevoir la promesse du Saint-Esprit. Donc nos enfants sont bénéficiaires, les blancs, les noirs, toutes les générations sont bénéficiaires de cette grâce. La promesse a été faite, elle a été accomplie, elle reste à notre portée. En d'autres termes, nous sommes bénéficiaires tant que nous voulons, et les autres vont encore bénéficier tant qu'ils voudront. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous continuons demain.